réplique à la recherche du temps présent avec Benoît Dutertre et Patrice Jean. Les sciences sociales, nous ne saurions pas comment la société fonctionne. Elles nous ouvrent les yeux sur le monde dans lequel nous baignons et nous évoluons. Elles nous révèlent en outre nos propres conditionnements. Elles montrent impitoyable ce qui pense et agit en nous quand nous croyons naïvement agir et penser par nous-mêmes. On peut leur savoir gré de cette démystification salutaire sans leur abandonner pour autant tout le terrain. Le mot de science est certes intimidant, mais il ne confère pas aux sciences sociales le monopole du vrai. Il y a d'autres accès à la réalité que celui que leurs enquêtes et leurs statistiques nous ménagent. L'étude du temps présent est aussi l'affaire de la littérature et notamment des deux romans dont j'invite aujourd'hui les auteurs. Livre pour adultes de Benoît Dutertre et L'homme surnuméraire de Patrice Jean. Commençons par ce titre. Qui est l'homme surnuméraire, Patrice Jean, et qu'est-ce que son histoire nous apprend sur la condition humaine?
Alors, l'homme surnuméraire, c'est un agent immobilier qui passe au début du roman des vacances à La Baule. Et comme souvent dans les stations balnéaires, il y a un cirque qui est invité dans le périmètre. Donc le cirque Zabata, cet homme, Serge Le Chenadec, achète des billets. Il veut les offrir à ses deux enfants qui sont des adolescents. Et ces deux adolescents trouvent ça ringard et sans intérêt. Et il s'aperçoit que sa femme, qui aurait pu prendre son parti, défendre son mari, en fait, est en accord avec ses enfants. Parce que dans la même journée, elle a rencontré des universitaires du Pays de Galles. Et donc, elle trouve un peu honteux quand elle le voit arriver avec ses deux billets ou ses trois billets de cirque. Et donc, il comprend à ce moment-là que quelque chose s'est passé. Et il va subir une dérive tout au long du roman. Car il est, d'une certaine manière, en trop dans sa famille. Il n'est plus...
Il est ringard pour les siens.
Voilà, il est devenu ringard pour les siens. Qui, eux, enfin sa femme, suite à... une de ses amies qui, elle, est féministe dans le train de la modernité. Donc cette femme, elle, va ne pas le soutenir et il se pose des questions. Donc il est en trop. Alors par rapport à ça, il y a un autre personnage qui s'appelle Clément Artois, qui lui lit un roman qui est celui dont je viens de parler. Voilà.
Donc oui, il y a deux personnages, voilà, et une sorte de mise en abîme, comme on dirait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un roman dans le roman.
Voilà, il y a un roman dans le roman. Et celui qui lit en particulier ce premier roman dont je viens de parler, lui-même est dans une position un peu surnuméraire, dans le sens où il n'a pas vraiment de travail au début. C'est un lettré assez paresseux et il vit avec une jeune femme brillante et jolie, qui elle est professeure de lettres en classe préparatoire. Et donc, il y a une sorte d'écho entre ces deux personnages. Alors, évidemment, l'homme surnuméraire, ça peut faire aussi écho à notre société et la position de chacun avec le chômage, beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question aussi par rapport à un monde qui n'a plus de sens, il n'y a plus, comment on dit, de grands récits religieux ou politiques. Et les individus peuvent se poser la question, qu'est-ce que je fais là, etc. Donc c'est la grande question métaphysique qui revient en force, d'une
certaine
manière.
Alors, quel rapport, justement, entre cette question métaphysique que vous posez et, on est obligé d'y penser, la nausée de Sartre, puisque Roquentin, c'est l'homme en trop, chaque existant est de trop par rapport aux autres, et moi, veulent un langui obscène, digérant, ballottant de mornes pensées. Moi aussi, j'étais de trop. C'est la prise de conscience du personnage au jardin de Bouville. Donc il y a une sorte de trop, c'est il est affecté par la contingence. Son existence n'est pas nécessaire, elle est contingente. Et peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de Dieu, vous le dites, pour Dieu, il n'y avait pas d'homme entre eux. Je vous lis, Patrice Jean, chacun du plus misérable au plus glorieux relevait de son administration miséricordieuse. Il n'y a plus de Dieu. Aucune existence nécessaire n'est nécessaire, nous sommes tous contingents. Est-ce de cela qu'il s'agit dans votre livre, ou est-ce un peu autre chose quand même? Une dimension peut-être plus moderne, plus sociale, que ontologique.
Ben, je pense que c'est les
Patrick
deux.
Jean.
Alors, Roquentin, vous avez lu le roman de Sartre, enfin un extrait, est conscient d'être en trop. D'une certaine manière, c'est un double, jusqu'à quel point je ne sais pas, de Jean-Paul Sartre, alors que Serge Chenadec n'a pas les capacités philosophiques de se percevoir comme un homme en trop. Il le pressent confusément.
Il est tellement, enfin, confusément.
Il le devient aussi. Il le devient. C'est une chute dans voilà. Ce côté surnuméraire. Voilà.
Oui, et c'est une chute terrible. Et là, je vais citer une dernière phrase avant d'interroger Benoît Duterte, parce que elle est révélatrice aussi de l'humour de ce livre. C'est un livre tragique et extrêmement drôle, parce qu'il pense au suicide.
Oui.
Il est rejeté par sa famille. Il n'a plus de place nulle part. Et vous dites, le suicide, c'est n'être plus rien. Mais n'être plus rien, quand on est un moins que rien, c'est une authentique promotion. Voilà. Donc il va vers cette promotion, l'homme surnuméraire, le suicide. Et là j'en viens à vous Benoît Duterte, parce que on va parler de votre titre aussi, avant qu'on engage la conversation sur les deux livres. Livre pour adultes, c'est un titre aussi humoristiquement trompeur, parce que on pense à film pour adultes. Le film pour adultes, c'est un film où il y a du sexe. Le livre pour adultes, c'est un livre où rôde la mort en réalité. L'adulte, c'est celui, dites-vous, qui court à sa perte. Ce n'est pas celui à qui rien ou presque n'est interdit. Donc la mort est là aussi omniprésente dans ce livre pour adultes.
Oui, c'est d'ailleurs un livre qui est né de l'expérience personnelle de la mort de ma mère, en fait. Hein. Et j'ai envie de dire, oui, non seulement de cette prise de conscience peut-être plus aiguë qui est la caractéristique de l'âge adulte que nous courons vers la mort, mais aussi de cette double disparition qui est celle de nos proches, de nous-mêmes, qui est le caractère de la mort, mais aussi du monde dans lequel nous avons grandi, qui lui aussi va mourir en même temps que nous vieillissons et que nous allons mourir. Donc ce livre suit un peu comme ça, c'est les deux plans de la question personnel de la mort et de la question de la mort, de tout ce qui nous a fait, de tel que nous sommes, de tout ce que nous avons aimé, etc., qui s'effrite peu à peu, peut-être pour rendre notre mort moins difficile, d'ailleurs, finalement, d'une
oui,
certaine
façon.
Oui,
parce que finalement, peut-être aussi, on se sent en trop, on n'a pas forcément voilà. De place dans le monde
le
qui
monde
vient.
Le monde qui vient n'est plus voilà. Le nôtre, d'une certaine oui. Façon, et voilà, donc ce livre est fondé vraiment sur ce balancement entre ces deux expériences.
Il y a cette disparition du monde paysan dont vous parlez et sur laquelle nous reviendrons, et il y a votre mère qui, avant de mourir
et d'être
est atteinte
malade, oui.
De la maladie d'Alzheimer,
oui.
C'est-à-dire la maladie de l'oubli.
Hein. Absolument.
Elle déambule, elle ne reconnaît presque plus personne. Vous avez des pages déchirantes sur ce thème-là, mais évidemment, votre livre est fait de résonances, puisque ce sont des récits et des sortes d'essais juxtaposés, et en même temps tout ça fait sens, tout ça fait système, mais on peut se dire, oui, peut-être que notre monde lui-même est atteint d'une sorte d'Alzheimer, puisque quelque chose disparaît et nous ne nous en apercevons pas. C'est une disparition qui passe inaperçue. Un monde millénaire, en quelque sorte, nous quitte. Et nous n'avons pas un regard parce que nous sommes définitivement passés à autre chose. C'est quelque chose comme ça, non ?
Oui, je pense. Enfin, on le sent très bien partout. D'une certaine façon, il y a la perte du sens de l'histoire, du goût de l'histoire, qui est très caractéristique de notre société. Et en même temps, d'une certaine façon, c'est paradoxal, parce qu'on vit dans un monde qui met en scène continuellement, d'une certaine façon, sa mémoire. Il y a en même temps un goût de la muséographie, de la célébration, etc., mais qui est peut-être le contraire de la vraie mémoire. Mais c'est effectivement un livre, oui, sur l'amnésie de toute une époque. C'est pour ça que je m'amuse aussi à mettre en scène, au fil du livre, des très très vieilles personnes qui, elles, au contraire, nous semblent créer des liens entre des époques éloignées, comme par exemple cette vieille dame, Madeleine Millot, avec laquelle j'ouvre ce livre, et qui tout d'un coup, elle, me rattache à des époques lointaines, au début du XXe siècle, etc. Mais effectivement, je pense que oui, notre époque est affectée d'une profonde perte de mémoire, comme malheureusement cette expérience d'Alzheimer. Oui.
Oui, alors là, ça me renvoie à votre livre, Patrick Jean, parce que à un moment donné, vous dites « L'époque s'adore et n'en peut plus de se voir si belle en son miroir ». Et l'oubli, c'est aussi un effet de ce narcissisme, de cet ethnocentrisme du présent, un présent qui serait si heureux de lui-même qu'il n'a plus le souvenir d'autres mondes et qui n'aime pas d'ailleurs qu'on lui rappelle l'existence de ces autres mondes parce que la nostalgie aujourd'hui n'a pas vraiment bonne presse. Patrice Jean.
Oui, alors, si l'époque s'adore, c'est peut-être ce que j'ai voulu dire, c'est aussi peut-être lié à l'idée de progrès qui est toujours là malgré tout. Et à partir du moment où on pense qu'il y a un sens et qu'on est arrivé à l'extrême pointe de ce sens, c'est pas la peine de regarder derrière. Ce sont des moments plus moins parfaits de l'espèce humaine, donc sans grand intérêt. C'est, je pense que voilà. Oui, pardon.
J'ai l'impression qu'il y a un paradoxe parce qu'on vit dans une époque qui effectivement s'adore, qui au nom du progrès explique qu'elle est meilleure sur tellement de points que toutes les époques précédentes, dans l'évolution de la société, de la place des femmes, de la place des immigrés, tout ce qu'on veut, tout, nous n'avons fait que conquérir et aller vers l'avant. Et en même temps, notre époque est absolument persuadée, malgré tout, plus ou moins consciente, de foncer droit dans un mur, elle aussi, d'une certaine façon. Quand on parle de l'état de la planète, de l'état de l'économie, de la démographie, tout le monde sait que cette époque va vers une espèce d'impasse. Donc c'est curieux, cette double conscience de l'époque, cette illusion, cette conviction d'être meilleur que toutes les époques précédentes, et en même temps cette certitude qu'il n'y a pas d'issue et qu'on va dans une très mauvaise voie.
En effet, et d'ailleurs, ce que vous dites, Benoît Durtortre, me fait penser à la politique, et à la politique la plus actuelle. Après tout, le président de la République a été élu sur l'idée que le clivage droite-gauche est périmé, qui doit être remplacé par le clivage entre les progressistes et les conservateurs. Les conservateurs sont attachés au monde ancien, et les progressistes veulent embrasser la modernité. Mais force est de constater que Emmanuel Macron est moins macronien qu'il ne le dit. Vous dites, cette époque sait qu'elle va dans le mur, le mot mur, c'est extraordinaire. Nicolas Hulot essaye de faire une loi taxant la bétonisation, le mur. C'est-à-dire la bétonisation, c'est-à-dire de moins en moins de surface agricole, la bétonisation des montagnes, hein, et vous venez des Vosges, vous savez de quoi je parle, la bétonisation des rivages. Il pense qu'il faut que ça s'arrête. Autrement dit, le progrès est un processus terrible qu'on devrait freiner, si vous voulez. Donc, en fait, on est élu au nom du progressisme et on prend des mesures visant à freiner les processus parce qu'on sait qu'ils peuvent nous mener au pire. Il y a bien quelque chose de cet ordre, Benoît Dupont.
C'est la contradiction de l'époque, et ce sont les contradictions qui sont évidemment intéressantes aussi pour, je pense, quand on écrit des romans, hein, c'est pas les choses trop simples, mais il y a tout le temps ce paradoxe que en tout cas, j'essaie de souligner d'une certaine façon. Oui.
Paul Yonnet cite, le regretté Paul Yonnet, dans un de ses livres, André Terrive, un homme tout à fait oublié, ce qu'il faut poser, c'est le mécanisme du frein. La pente n'a pas besoin de défenseur. Et peut-être que le progrès, c'est la pente. Et une pente fatale. Donc tout d'un coup, on parle en termes d'émancipation, et il y a quelque chose de fatal ou de destinal qui se dessine, et dans lequel, d'une certaine manière, nous sommes pris. Mais les progressistes, d'ailleurs, sont très présents dans votre livre, Patrice Jean, non ? Et même Claire, la femme de ce pauvre agent immobilier, est progressiste, ainsi d'ailleurs que les professeurs, les universitaires qu'il rencontre. Lui, il est en trop, mais précisément parce qu'il n'a pas la place.
Oui, ils sont bien dans leur temps, dans leur époque. Alors c'est peut-être un progressisme, c'est moral, je pense que Claire, oui. C'est plutôt des luttes politiques qui vont peut-être pas jusqu'à se poser la question de la bétonisation. C'est peut-être ça aussi son engagement, c'est qu'elle ne voit pas tout, elle voit une part du progrès, ce qui lui permet d'oublier peut-être les certains excès ou certaines catastrophes de l'autre côté.
Il y a des thèmes communs à vos deux livres, c'est-à-dire vous êtes tourné, Benoît Durtortre, vers ce passé qui nous quitte, et en même temps nous sommes conviés à mesurer le présent à ce passé-là, et un présent qui se caractérise par le tourisme. En Lorraine, la fin de la sidérurgie, c'était l'apothéose des parcs d'attractions, les Schtroumpfs.
Le Schtroumpfland qu'avait
Schtroumpfland. Et vous voyez, vous aussi, dans les Vosges, un certain tourisme prendre le relais de la vie paysanne, agricole, la vie agricole qui meurt. Et puis, le quartier même que vous habitez, est devenu totalement touristique, soumis aux normes du pittoresque organisé. C'est le quartier de Notre-Dame.
Notre-Dame. Avec cette haine de la. Alors, on parlait de la question de la mémoire et de l'histoire, parce que dans un certain côté, dans ma rue, par exemple, tous les vrais bistrots se sont transformés en faux bistrots typiques parisiens, avec le personnel qui a un petit béret sur la tête et qui alpague en anglais la clientèle pour la faire entrer dans un vrai Paris qui vaut guère plus que celui de Walt Disney. Et dans le même temps, notre grand architecte Dominique Perrault, à la demande de François Hollande, etc., a fait un projet pour l'île de la Cité, pour la reconvertir en base touristique. Et qu'est-ce qu'il prône comme principale transformation dans l'île de la Cité ? C'est la destruction du marché aux fleurs, qui est sans doute le seul vrai joli endroit de l'île de la Cité, mais qui tout d'un coup est considéré comme un peu décati par cet architecte censé concevoir un grand plan d'accueil des touristes dans l'île, et qu'on veut remplacer par des cubes transparents, etc., etc. Cette seule vraie petite chose qui restait encore et qui faisait encore le charme de cette île au centre de Paris. Voilà. Donc effectivement, il y a toujours ce mélange de la volonté de jouer la comédie de Paris et en même temps de continuer d'achever la destruction d'une certaine façon d'un vrai Paris. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans le livre. Et effectivement, également, dans la vie paysanne, on est toujours dans ces paradoxes. Moi, je vous disais, ça qui m'intéresse, c'est la contradiction, c'est-à-dire la façon dont, effectivement, d'un côté, le discours de l'époque, c'est « il faut du développement durable, il faut une agriculture de qualité, il faut des circuits courts », vous savez, toutes ces formules comme ça. Et en même temps, dans la réalité d'une vieille ferme des Vosges, c'est l'inspecteur de l'hygiène qui vient régulièrement voir la dernière vieille fermière du coin et lui expliquer que sa ferme n'est plus aux normes et qu'il va falloir qu'elle arrête, que par un esprit de tolérance, on la laisse continuer encore quelques années, mais que tout ça, ce sera fini. Donc cette ferme qui est réellement l'exemple du développement durable est combattue par ces mêmes inspecteurs qui travaillent pour cette société qui est censée promouvoir le développement durable.
Un des paradoxes de l'époque, mais je voudrais aussi préciser tout de suite que la nostalgie dont votre livre témoigne, et vous n'avez pas honte d'être nostalgique.
Ah non, pas du tout.
Alors que la nostalgie est persécutée aujourd'hui, Pangloss règne, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, c'est la phrase que avait commenté Philippe Muret, nous vous ferons aimer l'an 2000, donc on nous fait aimer le 21e siècle, mais en même temps, Benoît Dutertre, votre nostalgie n'est pas un embellissement. C'est ça qu'il faut dire, c'est-à-dire, vous dites par exemple que l'appel du vin était irrésistible dans ce pays triste et froid, les Vosges, donc vous essayez de conjuguer nostalgie et lucidité, vous parlez du suicide,
le suicide
terrifiant
chez les paysans,
d'un paysan, mais vous en décrivez un, et c'est vraiment terrible. Donc, il n'y a rien d'irénique dans la nostalgie dont vous faites preuve.
Non, c'est vrai. Curieusement, ce sont peut-être une vingtaine, une trentaine de pages du livre auxquelles j'ai travaillé depuis fort longtemps, parce que je voulais essayer de restituer vraiment les souvenirs précis que j'ai eu depuis les années 60, puisque je suis né au début des années 60, de cette vie paysanne, de ces derniers paysans des Hauts-de-Vosges. J'ai essayé effectivement d'être très juste sur l'aspect assez misérable de cette existence, et sur la façon dont leurs enfants ont voulu y échapper, etc. Bien sûr, il faut montrer tout ça. Et voilà pourquoi j'essaie de montrer la réalité de la vie paysanne. Mais j'essaie de dire dans le livre pour adultes aussi d'une certaine façon, c'est que, vous savez, ce que j'appelle l'âge adulte là-dedans, c'est au fond quand on a passé la moitié de sa vie, c'est un peu comme une balance. Quand on a passé la moitié de sa vie, la partie qui est avant pèse largement autant que celle qui est après. Et au fond, j'ai cette idée qu'on n'est pas simplement frénétiquement tendu vers l'avant, mais qu'on est au milieu de quelque chose et qu'on a ce regard vers l'avant et aussi ce regard vers l'arrière qui est aussi intéressant, aussi riche, aussi passionnant, aussi plein, même pour l'imagination, pour le rêve, etc., que le regard vers l'avant. Et je crois vraiment qu'il y a cette espèce d'effet de la balance quand on a passé la moitié de sa vie qui fait qu'on est aussi attaché à ce qui nous précède qu'à ce qui va venir et qu'on essaye de regarder des deux côtés à la fois.
Et encore une fois, c'est un regard très clairvoyant. Je voudrais citer ce passage consacré aux paysans qui ne buvaient jamais dans ce pays où on buvait beaucoup. Un jour enfin, à ce qu'on m'a dit, il est sorti de chez lui au petit matin, puis s'est rendu au ruisseau où il a plongé sa tête dans l'eau froide et il y a maintenu volontairement jusqu'à l'asphyxie. Son nom est venu s'ajouter à la litanie des suicides paysans, à ses fins obscures dans les fermes perdues, à ses pendus des greniers à foin et à tous ces campagnards mélancoliques hantés par le destin. Oui. Alors, nul ne peut vous accuser, Benoît Dutertre, d'enjoliver les choses. Mais le tourisme est aussi présent dans votre livre, Patrice Jean, à plusieurs reprises. Hein. Ils vont visiter des monuments et vous voyez des touristes dans leur tenue réglementaire, c'est-à-dire Bermuda et T-shirt. Pourquoi cette présence du tourisme dans L'Homme surnuméraire, Patrice Jean ?
Bah parce que, justement, on parlait tout à l'heure de ces hommes en trop. Dans une société où on est de plus en plus amené au jeu, à l'amusement. Et alors moi, je vois ça un peu comme ça, avec d'un côté, il y a la science, qu'effectivement, alors les sciences sociales, la science dure, qui est du côté de la connaissance. Et puis de l'autre côté, eh bien, il faut bien occuper son temps de manière ludique, de manière facile. Donc d'où la promotion du tourisme, d'où la promotion des stations balnéaires, des jeux, mais aussi dans le domaine de la culture, des choses beaucoup moins intéressantes, comme des romans sans ambition, des films faciles, enfin, etc. Donc j'ai l'impression que on va vers un monde avec d'un côté une science extrêmement performante et admirable d'une certaine manière. Et de l'autre côté, l'être humain va être effectivement ce touriste dans l'existence, cet enfant un peu hébété qui est là, qui a besoin d'être amusé. Donc il est amusé partout, tout est recyclé dans l'industrie du tourisme. Et d'ailleurs, c'est à un moment, je parle de Jublin, qui est une petite commune de Mayenne où il y avait des ruines romaines. Et il fut un temps où cet endroit, je crois, était laissé un peu à l'abandon et les individus y allaient un peu comme ça. Et aujourd'hui, non, c'est parqué, on a des tickets pour y rentrer. Enfin, tout est exploité dans le sens de l'industrie touristique. Alors, parce qu'il faut que les gens s'amusent une fois qu'ils ont travaillé sérieusement.
Voilà. C'est-à-dire une tendance forte de l'époque de vouloir, d'une certaine façon, organiser des divertissements pour la population. On le voit aussi bien dans la politique de la mairie de Paris. Moi, j'habite près de l'Hôtel de Ville. C'est une succession d'animations sur le parvis maintenant en permanence, et des fêtes et des joggings et des machins. Une espèce d'organisation publique du loisir de la population pendant le week-end, etc. Dans un format extrêmement réglé.
On transforme même les autochtones en touristes.
C'est d'une certaine façon, c'est ça.
Généralisée. Nous sommes tous des touristes. Et en même temps, il faut se souvenir peut-être de l'origine du tourisme. C'était un instrument de civilisation. C'était voyage en Italie quand même. Donc, une découverte du monde. Aujourd'hui, c'est une forme de dévastation du monde. Et ça a plus à voir avec le divertissement qu'avec la civilisation. Et c'est pour ça que j'ai insisté, Patrice Jean, sur ce passage où vous décrivez la tenue réglementaire du touriste. Parce que je me souviens d'un texte de Brodsky, de Joseph Brodsky sur Venise, et il disait, mais Venise devrait inciter les gens à s'habiller bien, puisqu'il y a une sorte de verticalité, de transcendance, la beauté des monuments, des palais, etc., de la ville tout entière. On se dit qu'on doit être d'une certaine manière, un peu à la hauteur. Or, ce que nous vivons aussi, avec l'idée du loisir, c'est la transformation du touriste en vacancier. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes des vacanciers. Nous avons nos tongs, nos bermudas, nos t-shirts. Quelquefois, on voit aussi des gens torse nus. Enfin, bientôt, on va visiter le musée des offices torse nus, en quelque sorte. Donc, il est arrivé quelque chose au tourisme lui-même. Non, vous ne croyez pas?
Oui, le touriste, ce que je disais tout de suite, c'est où qu'il aille, il y va pour être bien, pour s'amuser, alors qu'il soit effectivement au musée des offices, sur une plage ou...
Voilà, il n'y a plus de différence.
Le monde est devenu un gigantesque endroit de jeu. La mer est devenue un endroit où on va faire du surf, du ski, comme les montagnes. Enfin, le monde se transforme en grande plaine de jeu, d'où le côté peut-être justement infantilisation. Avec d'un côté les adultes qui seraient les scientifiques, du moins dans leur moment où ils travaillent, et puis le reste de la population qui est là pour s'amuser. En plus, bon, ça fait marcher le commerce, c'est l'industrie, etc.
Quoi, l'industrie. C'était frappant loisir, d'ailleurs dans des années. Vous parliez des Vosges, des années sans neige, l'hiver, drame pour l'industrie touristique. Et le premier réflexe, d'une certaine façon, du département, des responsables des stations, etc., c'est d'organiser des activités de substitution. Et jamais dans cette substitution n'est envisagée l'hypothèse simplement que les gens pourraient aller par exemple, se promener dans la montagne. Vous voyez, il faut toujours que ce soit des activités organisées, lucratives, etc., mais passant aussi par des objets, des formes de sport, etc., constituées, si vous voulez. L'idée simplement qu'on pourrait remplacer quelques balades à ski par simplement la découverte d'une jolie région, ça c'est quelque chose qui ne vient pas à l'esprit. Il faut des activités.
Alors, il y a peut-être une dimension métaphysique à cela, et là je vais vous citer Patrice Jean, parce que ça en dit long sur la tonalité de votre livre. L'homme occidental, sans le secours de Dieu, est obligé d'être heureux, sinon il en chie un Marx. Peut-être est-ce de cela qu'il s'agit, avec tout ce loisir organisé aussi, Patrice Jean.
Ah bah oui, parce que il n'a plus de sens, on en parlait tout à l'heure, qui a donné à sa vie. Donc finalement, s'il n'est pas heureux, s'il ne s'amuse pas, si on ne l'amuse pas, parce qu'on pourrait le dire comme ça aussi, eh bien il se retrouve face à son néant, en fait, face à quelque chose d'atroce à regarder.
Alors quelque chose d'atroce à regarder, c'est peut-être le néant, c'est peut-être aussi la réalité humaine, dans son aussi, ambiguïté fondamentale. Et là, je voudrais quand même qu'on parle d'un passage important de votre livre, la deuxième histoire, celle qui finalement englobe la première, puisque son héros est un lecteur de L'Homme surnuméraire. Eh bien, son héros est au chômage, donc, hein, et il est un peu mal vu à cause de ça. Il a peur que ça n'affecte la relation qu'il entretient avec la femme qu'il aime. Et puis tout d'un coup, il trouve un poste chez un éditeur, c'est merveilleux, sauf qu'évidemment il a un cas de conscience terrible. Cet éditeur vient de créer une collection, littérature humaniste, qui expurge les œuvres de leurs passages, disons, les plus scandaleux, les plus éloignés de la morale du temps. Alors, dites-nous en plus sur la littérature humaniste.
Ah bah, c'est justement cette collection qui demande qu'on coupe et qu'on réécrive à l'occasion des grandes œuvres de la littérature, parce que elle charrie des pensées, des idées, des visions qui ne sont plus conformes au temps présent. Et par exemple, donc Voyage au bout de la nuit devient une sorte de bluette de 20 pages qu'une jeune fille peut très bien porter dans son sac et se promener fièrement avec elle. Donc moi, je suis assez frappé quand je lis un certain nombre d'auteurs des siècles passés du décalage que ces auteurs ont avec notre époque. Et je me dis, oh là là, mais ça, telle idée, tel passage, aujourd'hui, ça ne passerait plus. Et alors, il y a deux solutions. Effectivement, soit ça passe parce que on considère que ce sont des grands auteurs, donc on leur pardonne d'une certaine manière, soit tout simplement parce qu'ils sont pas très bien lus, ou mais d'ailleurs, même quelqu'un comme Molière, par exemple, certains passages, je pense justement dans L'Homme surnuméraire, où il présente justement, on en parlait tout à l'heure, des paysans, avec un accent très fort, un patois. J'imagine très bien qu'aujourd'hui on pourrait dire, oh là là, mais vous vous moquez du peuple, etc.
Et les femmes savantes et les précieuses
ridicules. Et voilà.
Et en effet, donc, il s'agit, vous dites, d'expurger les poisons des œuvres anciennes, le phallocentrisme, le dédain de la culture populaire, et pire encore, le racisme. Les femmes, les noirs et les musulmans sont les nouvelles vaches sacrées, dit l'un des personnages à Lise. Qui est alors...
Il est énervé quand il dit ça, à ce moment-là.
Il est énervé quand il dit ça. Oui, aucun d'entre nous ne reprend cette phrase à son compte. C'est une phrase du roman, mais évidemment, on peut se dire que vous versez dans la paranoïa, mais le politiquement correct aux États-Unis, c'était dans un premier temps la mise en cause des dead white European males, hein, les hommes européens blanc et mort, il fallait élargir ce qu'on appelait le curriculum, faire leur place aux représentants des minorités ou des autres civilisations. Maintenant, c'est une autre exigence avec ce qu'on appelle le trigger warning, c'est-à-dire les professeurs qui abordent une œuvre susceptible de heurter l'une et l'autre de ces sensibilités, doivent avertir leurs élèves, trigger warning, qu'il peut se passer quelque chose et qu'ils s'en excusent en quelque sorte à l'avance. Et ça peut commencer par exemple par les métamorphoses d'Ovide à l'université de Columbia.
Alors, c'est à l'œuvre en France aussi, hein. Je veux dire, ne rêvons pas les campagnes pour débaptiser un certain nombre de lieux publics. Alors, c'est vrai que ça ne vise pas encore trop la littérature ou pas les grands artistes, mais on a vu la polémique récemment à propos de Colbert, par exemple, qui, du fait de ses liens avec l'esclavagisme, n'était plus digne d'apparaître avec son nom sur des places ou des rues de France. Donc voilà. Je me rappelle aussi qu'on a débaptisé à Paris un lycée Vincent d'Indy, parce que Vincent d'Indy avait été anti-Dreyfusard et fait partie de l'Action française, certes, mais si le lycée portait son nom, c'était parce que ça avait été d'abord un grand compositeur, et finalement on a choisi de débaptiser ce lycée. Donc voilà, on n'en est pas tellement loin de cette volonté de purifier d'une certaine façon l'histoire en fonction des valeurs de notre époque.
Oui, et puis il y a aussi un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la non-attribution, si j'ose dire, obstinée du prix Nobel aux deux plus grands écrivains du monde. Et nous avons la chance d'être contemporains de ces génies, parce que les génies, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Je parle de Philippe Roth et de Milan Kundera, et ils n'auront pas le Nobel.
Pour les mêmes raisons ?
Et oui, je pense qu'on ne purge pas encore les livres, mais on punit les auteurs qui transgressent les règles de l'esprit du temps, et ils sont punis l'un et l'autre pour leur prétendu sexisme, leur prétendu misogynie. Et là, je voudrais attirer votre attention sur ce fait, parce que une intellectuelle américaine très célèbre aux États-Unis, Viviane Gornick, dont on vient de publier d'ailleurs un livre tout à fait intéressant, qui s'appelle « Attachement féroce », avait écrit en 1976, dans Village Voice, un article montrant les photos de Roth, Bello, Mailer et Henry Miller, comme des espèces d'avis de recherche, « Wanted », sous le titre « Pourquoi ces hommes haïssent-ils les femmes ?» Et pour Philippe Roth, c'était « Ma vie d'homme », où il peignait une femme terrifiante. Et Viviane Gornick s'en est pris à lui de manière absolument terrible, sa vilainie inhumaine, son intelligence morale en déliquescence, sa misogynie non reconnue, qui s'échappe tel un lent poison noir comme de l'encre. Et en 2008, elle a récidivé. Dans tous les livres des trois décennies qui ont suivi Portnoy, les personnages féminins sont monstrueux, parce que pour Philippe Roth, les femmes sont monstrueuses. Point final. Et de même, Kundera se défie de l'hystérie féminine, il le dit, et peu importe que ses personnages les plus attachants, de Tamina dans le livre de Ray Loubi à Agnès dans l'immortalité, soient des femmes, son conte est bon. Alors, pour parler le langage d'aujourd'hui, ce sont des porcs, et on ne donne pas le prix Nobel à des porcs. Donc, c'est pour ça que quand j'ai lu votre livre, j'ai eu une double réaction, je me suis dit, il va trop loin avec sa littérature humaniste et puis les autres collections d'ailleurs du même type qui fleurissent. Mais je me demande si on n'est pas déjà là quand même, Patrick.
On y est presque. D'ailleurs, je pense que justement c'est peut-être une des vertus de la littérature. C'est-à-dire qu'on peut observer la réalité, puis on peut aussi essayer de voir ce qui est en germe et donc développer ce qui est dans l'esprit du temps, mais qui n'est pas encore tout à fait là et qui peut apparaître. Donc effectivement, on est, je pense, on n'en est pas très loin. Et encore une fois, je pense que si ces collections n'existent pas, c'est pour la raison que ces grands auteurs ne sont pas tant lus que ça, en fait.
Alors, parce qu'il y a d'autres collections qui fleurissent, digèsent. Je vais quand même en donner les noms, parce que c'est très drôle. Belle lettre égalitaire, romance sans racisme, la gauche littéraire... Et la plus célèbre, conçue pour les enfants, Bébé, Sade, Maman. Voilà. Bébé, Sade, Maman. Voilà, donc, oui.
Mais si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que vous dites sur les femmes, ce que vient de dire Patrice Jean sur les choses qui sont en germe, qu'on ne voit pas, ça ramène à ce que vous lisiez sur la sociologie au début de l'émission. Effectivement, le roman est là aussi pour nous montrer ce que la réalité et l'actualité ne dit pas, mais qui est déjà en germe. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans L'homme surnuméraire. C'est-à-dire que, au fond, ça me frappe depuis des années de voir que la production romanesque a tendance à suivre les thèmes d'actualité. Quand, après l'affaire Doutreau, etc., vous pouvez pas imaginer le nombre de romans sur la pédophilie qui sont sortis, etc. Aujourd'hui, des quantités de romans sur le harcèlement, sur le viol, qui sont bien sûr des drames, etc., sortent. Et on a l'impression que c'est une production qui se se contente de suivre d'une certaine façon l'actualité sociale et politique. Et ce qui est très beau dans le livre de Patrice Jean, c'est que il montre l'envers des choses. Et ça, c'est plus le rôle du romancier, c'est-à-dire que au fond, il met en scène justement celui qui est considéré comme le représentant du mal, le bourreau de l'époque, l'homme blanc de 50 ans qui est coupable évidemment de tous les crimes du passé, des guerres, des crimes envers les femmes, etc. Il le montre lui-même comme si c'était lui qui était en train de devenir le paria de la société, cet homme blanc de 50 ans qui est rejeté par sa femme parce qu'elle a envie de vivre pour elle, qui est rejeté par ses enfants parce qu'il est ringard, qui dans d'autres cas va perdre son travail parce qu'il n'est plus assez productif sur le marché. Et donc il y a cette mise en perspective de cet homme tout soi-disant tout puissant, encore beaucoup trop puissant, comme s'il était au fond en fait déjà lui-même là d'une certaine façon la victime de ce système. Et ce renversement là qu'on sent très très bien dans ce livre, c'est vraiment, je crois, au fond la mission du, si on a une, on peut dire le mot. Alors, fort, oui, du romancier.
Vous dites d'ailleurs dans L'homme surnuméraire, Patrice Jean, on veut bien de la littérature si elle baisse la tête pour rendre hommage à son suzerain, l'esprit du temps. Et au fond, vous avez voulu écrire un livre, un roman qui ne baisse pas la tête. C'était l'une de vos ambitions, sans doute.
Tout à fait, un livre pour la littérature, pour défendre... je ne sais pas si elle a besoin d'être défendue, mais si quand même un petit peu, certains auteurs, et cette façon que chaque œuvre a de chercher à blesser, en fait, le lecteur. Enfin, je pense que Kafka disait qu'il faut lire pour... enfin, j'ai essayé de retrouver la citation exacte, briser la mer gelée en nous, où il faut lire pour recevoir des coups de poing, en fait, d'une certaine manière. Et effectivement, peut-être tout à l'heure vous parliez de ces personnes qui n'acceptent pas, qui veulent qu'on réécrive les livres, etc. Parce qu'ils veulent pas les coups de poing, ils veulent pas lire Philippe Roth, ils veulent pas lire Kundera, parce que ce sont des auteurs qui vont peut-être effectivement les déranger, les remettre en cause, on ne lit pas, à mon sens, pour se divertir. Justement, la littérature, c'est pas le divertissement dans le sens pascalien du terme, c'est l'antidivertissement, en fait.
Alors c'est l'antidivertissement, mais...
tout en divertissant.
Il y a une question que je voudrais vous poser, et c'est une vraie difficulté, parce que vous avez une vision du monde, mais justement, comment faire pour que le roman soit autre chose que l'illustration de la vision du monde ? Nous citions Kundera. Kundera définit l'humour comme l'éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l'homme dans sa profonde incompétence à juger les autres. L'humour, l'ivresse de la relativité des choses humaines. Le plaisir étrange, issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. Et, dans l'art du roman, il définit le roman comme la sagesse de l'incertitude. Mais est-ce que vous êtes dans l'humour ? Et il y a des passages très drôles, j'en ai cité. Vraiment, on s'amuse beaucoup à vous lire, mais pas au sens Anne Hidalgo du terme. Mais, d'un autre côté, est-ce que vous êtes dans l'humour ou dans la satire ? Parce que on compatit au malheur de cette pauvre agent immobilier, on a du mal à s'identifier à sa femme, on trouve ses enfants terrifiants, et il y a un couple d'universitaires terrible, Alexandre Korvec,
oui, c'est ça,
ça, et sa femme, Alexandre Korvec, qui publie un livre herméneutique et raison littéraire. On pense d'ailleurs à cette merveilleuse phrase de Gombrowicz, plus c'est savant, plus c'est bête. Plus c'est savant, plus c'est bête, oui. Et d'ailleurs, c'est les écrivains d'Europe centrale, dans leur ambivalence à la France. Ils aiment la France patrie littéraire, ils n'aiment pas la France et patrie de la sophistication. Mais d'un autre côté, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté chez eux. On se dit peut-être que les femmes, même Claire, auraient droit à de la compréhension. Et finalement, non. La compréhension, elle est pour l'agent immobilier, pour la femme avec laquelle il essaye vaguement d'avoir une relation, et il dit « nous sommes l'un et l'autre de la même farine excédentaire », mais les autres personnages, eh ben, ils sont vraiment pas aimables du tout.
Oui, alors j'accepte tout à fait ce que vous dites, la critique. Ou... bah, oui, il y a un aspect satirique, je pense, en plus d'être, j'espère, comique, qui est revendiqué. Alors je sais que j'aurais pu essayer de les rendre plus subtils, leur donner les raisons qui sont les leurs, mais je pense que justement la littérature, enfin je parle de la littérature, c'est peut-être un grand mot, mais enfin j'ai voulu, je pense qu'il faut aussi il faut aussi attaquer, avoir des cibles. Après tout, on est sans cesse soi-même, enfin moi ou encore plus attaquer, critiquer, etc. Donc pourquoi est-ce que je m'empêcherais moi de vous voyez de
oui, bien sûr.
Et en plus de face à des individus qui eux ne cessent de dire qu'ils sont parfaits, qu'ils sont justement puisqu'ils font la morale aux autres, etc. Alors si c'est possible, je pourrais lire un tout petit extrait d'un poème de Pessoa que j'ai amené. Apporté, pardon. C'est un poème qui s'appelle Poème en ligne droite. Alors il écrit « Je n'ai jamais connu quelqu'un qui se soit fait tabasser. Tous ceux que j'ai connus ont été champions en tout. Quant à moi, si souvent minable, porc et vil, moi si souvent irréfutablement parasite, cela sale sans aucune excuse. Tous ces gens que je connais qui m'adressent la parole n'ont jamais commis le moindre acte ridicule, n'ont jamais souffert de la moindre humiliation, n'ont jamais été que des princes, tous des princes, dans la vie. Comme j'aimerais entendre la voix bien humaine de quelqu'un qui avouerait non pas un péché mais une infamie, qui raconterait non pas une violence, mais une lâcheté. Non, si je les écoute, ils sont tous l'idéal incarné. Y a-t-il quelqu'un en ce monde qui avouerait avoir été vil, au moins une fois dans sa vie ? Ô prince, mes frères, zut, j'en ai marre des demi-dieux. Donc, voilà, j'ai coupé un peu le texte.
C'est un très beau texte, il faut le dire.
Voilà, je pense que c'est le projet romanesque, effectivement, c'est l'homme avec tous ses défauts, ce type humain qui parfois est ridicule, trivial, et c'est justement ce dont le roman peut parler et dont les sciences sociales ont du mal à parler. C'est-à-dire que les statistiques, la sociologie, l'anthropologie, etc. vont pas parler de l'aspect grotesque et ridicule de l'être humain. C'est pas partie des catégories, me semble-t-il, avec lesquelles elles peuvent analyser l'être humain. Alors que le roman, justement, lui, a cette capacité. Et puis, alors, dernier point, effectivement, si je suis un peu satirique, c'est que je m'en prends à ceux qui ne se sont jamais fait tabasser, qui n'ont jamais été minables, porcs et vils, etc.
Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'une autre collection s'ouvre où le lecteur est transformé en héros du roman. Oui. Dites-nous-en davantage, de quoi s'agit-il exactement, Patrick Jean ?
Alors c'est une collection qui propose au lecteur d'écrire un roman dont il sera le héros. Alors il y a des trames informatiques et puis on réécrit quelques points à partir d'un entretien et après on peut avoir un roman dont on est le héros. J'ai voulu, je crois, montrer que c'était le côté narcissique de l'époque. Et justement, on peut peut-être arriver à des romans où il faudra sans cesse montrer que le lecteur est quelqu'un de merveilleux, que les clercs qui lisent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui lisent, sont des femmes merveilleuses, etc., etc.
Ça m'a rappelé justement cette proposition étrange, la réflexion de Iris Murdoch, la romancière, philosophe Iris Murdoch, sur la différence entre fantasy et imagination, parce que c'est les deux mots qui désignent imagination en anglais. Et elle dit, le roman, au fond en tout cas l'art digne de ce nom, n'est pas fantasy mais imagination. Il casse l'emprise de nos fantasmes et nous tire vers l'effort d'une vraie vision. La plupart du temps, nous ne parvenons pas à voir le vaste et vrai monde réel parce que nous sommes aveuglés par nos obsessions, nos angoisses, nos envies et nos ressentiments. Nous sommes enfermés en nous-mêmes. Le grand art est libérateur. Il nous permet de voir et d'apprécier ce qui n'est pas nous-mêmes. Et effectivement, avec la littérature que vous proposez, c'est la régression de l'imagination vers la fantasy. Le fantasme, c'est-à-dire le désir imaginaire, le désir réalisé dont chacun est en quelque sorte le héros. Et la littérature est sans cesse menacée de cette régression, parce que c'est aussi une manière de raconter des histoires. Donc il faut savoir quelle manière on va choisir, la fantasy ou l'imagination. Et vous êtes du côté, en effet, de l'imagination. Et Benoît Dutertre, j'en reviens à votre livre pour adultes. C'est un livre mélancolique, vraiment mélancolique. Et en même temps, si j'ose dire, vous terminez en disant « Je vis dans un perpétuel enchantement ». Or, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent nous incite au désenchantement. Alors, d'où vient ce perpétuel enchantement ? Comment est-ce possible, Benoît Dutertre ?
C'est le sens même de toute ma vie, la recherche des plaisirs et des enchantements les plus concrets, les plus quotidiens. Ça doit être quelque chose qui doit venir peut-être un peu de ma nature, de mon éducation, de ce que cette espèce de joie de vivre que m'a transmis cette mère que j'évoque au début du livre, même dans ses heures les plus sombres, etc. Et effectivement, la capacité de s'enchanter simplement, c'est la quête perpétuelle de l'existence et de mon personnage dans ce livre.
Comment peut-on s'enchanter dès lors que, parce que le monde lui-même n'a plus rien d'enchanté?
On ne vit pas que dans le monde désenchanté, on vit aussi bien auprès d'une forêt, d'une cascade, on vit devant la mer. Cette scène que vous citez se déroule à la fin de l'été sur la plage d'Étretat, au moment où le soleil commence à décliner avec une lumière merveilleuse sur les falaises. Vous savez, c'est l'idée épicurienne qu'au fond, le bonheur, il tient à des choses très très simples, à un verre d'eau, à un rayon de soleil, etc. Donc il faut encore arriver, même dans un monde désenchanté, à essayer de saisir ces formes d'enchantement. C'est en tout cas ce à quoi, par nature, je m'efforce toujours. Mais si vous permettez, je voudrais peut-être revenir un instant sur ce que vous disiez à propos de Kundera, et de l'humour et de la... Je crois la question de la forme aussi. C'est-à-dire que on parle du roman du présent. C'est vrai que la difficulté, pour moi, l'ennui d'une certaine littérature d'avant-garde française des années 50-60, c'est qu'elle ne parlait pas du tout du présent, elle ne parlait que d'écriture, elle ne parlait que de forme, justement. Et puis, on a commencé à redécouvrir le fait que le roman était là aussi pour nous aider à voir notre société. C'est ce que font beaucoup de romanciers contemporains que j'aime, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Mais ce que Kundera nous a aussi transmis de merveilleux, c'est le fait que la littérature, même lorsqu'elle parle de quelque chose, est aussi un jeu avec la forme, avec la construction. Et c'est ce que j'ai aimé dans le livre de Patrice Jean, c'est-à-dire ces histoires qui s'imbriquent, etc. C'est-à-dire que on a parfois l'impression qu'il y a soit une littérature de la forme et de l'écriture, soit une littérature qui serait plus ou moins journalistique, qui serait du présent. Et je pense que cette littérature du présent dont on a besoin, elle ne peut grandir, et elle ne grandit qu'en devenant elle-même aussi, mais en parlant vraiment de quelque chose, une littérature de la forme.
Alors c'est le jeu, la forme, une certaine légèreté aussi, chez Kundera. Là, je citerai encore Iris Murdoch. La littérature nous intéresse sur différents plans et de différentes façons. Elle est pleine de tours et de magie, de mystification, d'illibéré. La littérature divertit, elle fait beaucoup de choses, alors que la philosophie n'en fait qu'une. Oui, c'est un peu de ça.
À propos de l'enchantement, oui, j'ajouterais peut-être... j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont une nature malheureuse. J'oppose quoi, le caractère fondamental, la nature, et puis la pensée, qui ont une pensée positive sur notre époque, qui pensent que le monde va toujours vers le mieux, mais qui sont profondément dépressifs et qui vont se soigner de leur dépression, mais tout en croyant fort à l'avenir. Moi, je dirais, je suis peut-être un peu le contraire. Je crois que j'ai une nature heureuse et une pensée pessimiste. Voilà, il faut jouer avec ces deux choses-là. Mais la question de l'être profond, c'est quand même important.
Et alors, vous dites, Patrice Jean, justement, par opposition à ce que certains ont cru être la science de la littérature, que la littérature est cet art qui unit l'être et le connaître. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Patrice Jean ?
Ah oui, alors, je fais une petite parabole dans le roman à propos des saints. Les seins, la poitrine des femmes. Donc,
oui.
Voilà. Et donc, j'oppose la vision du scientifique qui palpe des seins pour y découvrir je ne sais quelle tumeur, qui le connaît bien, etc. Mais d'un point de vue, je dirais, extérieur, et la vision de l'amant, d'une jeune femme qui touche les seins de sa maîtresse. Et je dis que c'est deux façons d'aborder la réalité. C'est une façon sans doute très probante, qui est la façon de la science, et la façon de l'amant. Pour me faire comprendre, je pourrais peut-être aussi
Et la littérature, elle est du côté de l'amant.
Oui, elle est du côté de l'amant.
Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça rejoint un peu l'idée de
une connaissance
de
sensuelle.
Voilà. C'est une connaissance sensuelle, il y a une part d'enchantement aussi.
Tout à fait. Ah bah oui. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Benoît Dutorte sur la question de l'enchantement. Enfin, le monde est certes terrible, mais si on devait attendre que tout soit parfait pour être heureux, on ne serait jamais. Là, je dis dans le roman, d'ailleurs, on ne l'est jamais. Mais enfin, c'est autre chose. Mais oui, il y a quand même encore des choses très belles dans le monde. Voilà, mais alors pour revenir à me faire comprendre, c'est on peut parler de l'eau. Vous savez, il y a on peut connaître comme un chimiste la formule de l'eau, H2O, ou bien on peut la connaître en la goûtant, en la touchant. Et la question qu'on peut poser, c'est lequel de ces deux la connaît le mieux. Et c'est ça en fait, la littérature, c'est la connaissance, comme vous disiez, une connaissance sensible, voilà.
La littérature, c'est une connaissance sensible. Et une dernière question, Patrice Jean. Pourquoi êtes-vous si sévère avec, je dirais pas forcément avec Alexandre Korvec, mais avec peut-être une certaine théorie littéraire? Parce qu'après tout, elle nous a apporté des choses. Moi, je suis un lecteur finalement reconnaissant de Gérard Genette. Bien sûr, faire du Genette dans le primaire ou même dans le secondaire, c'est absurde, mais ça peut être éclairant sur la littérature aussi. Non, vous ne pensez pas.
Non, bien sûr, mais enfin, je suis sévère avec les deux personnages parce que
oui, c'est ça.
Plus qu'avec la littérature théorique. Cela dit, dans cette littérature théorique, il y a aussi beaucoup d'ennuis. Enfin, je me suis beaucoup ennuyé à la lire en lisant parce que il manque parfois la passion. À mon sens, parler littérature sans passion, sans être totalement dedans, enfin, ça n'a pas de sens. Alors peut-être que Genette, lui, l'a fait avec beaucoup de d'intelligence, hein, je reconnais sa grandeur, mais tous ne sont pas Genette et parfois on s'ennuie à lire des revues littéraires, etc. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Puisque la littérature, c'est aussi quand même le jeu, c'est la passion, etc. Pourquoi écrire soi-même des choses inintéressantes? Alors que les écrivains, on parlait de Kundera, quand Kundera parle du roman, c'est passionnant. Ou quand Paul Valéry écrit Variété, c'est passionnant. Quand Gombrowicz parle de littérature, c'est passionnant. C'est pas toujours le cas, me semble-t-il, avec les universitaires.
Alors j'espère qu'on aura mis assez de passion aujourd'hui pour parler de vos deux livres. J'ai fait tout mon possible et je rappelle leur titre, L'homme surnuméraire, Patrice Jean. Votre roman est publié aux éditions Rue Fromentin et Benoît Duteurtre, livre pour adultes, c'est chez Gallimard. Je rappelle aussi un recueil de chroniques qui est...
Plus récent, oui.
Plus récent?
Un peu plus récent,
roman est de l'an dernier. Un peu plus récent et tout à fait passionnant, je reprends votre terme. Pourquoi je préfère rester chez moi? Et il est publié avec un très beau dessin de Sampé sur la couverture aux éditions Fayard. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.